Chapitre 11. Little Egypt. Je ne sais garder les gens que lorsqu'ils sont partis. Didier Van Cowellart. Astoria, nord-ouest du Queens. Midi. La lumière automnale éclaboussait le parvis de la gare. Alice et Gabriel quittèrent l'esplanade ensoleillée pour se fondre parmi les clients du marché installés sous les structures métalliques du métro aérien. Le couple avait pris une rame à Grand Central jusqu'à Lexington Avenue, puis le RER local jusqu'à Astoria Boulevard. Le trajet n'avait duré qu'une vingtaine de minutes, mais le dépaysement était total. Des petits immeubles de briques traditionnelles avaient remplacé les buildings de verre et d'acier, tandis que l'énergie et la vie trépidante de Manhattan avaient laissé place à une douceur de vivre quasi provinciale. L'air était saturé d'odeurs exquises d'huile d'olive, d'ail pilé et de menthe fraîche. Les étals débordaient de calamars et de poulpes grillés, de moussaka, de souvlaki, de baklava, de feuilles de vigne et de chaussons à la feta. Des spécialités appétissantes qui ne laissaient aucun doute. Astoria était bien le quartier grec historique de New York. Vous connaissez l'adresse au moins ? Demanda Alice en voyant Gabriel hésiter sur la direction à prendre. Je ne suis venu ici qu'une fois ou deux, se défendit le jazzman. Je me souviens que les fenêtres de l'appartement donnent sur Steinway Street. Un nom de rue prédestiné pour un musicien, s'amusa Alice. Ils se renseignèrent auprès d'un vieil homme qui vendait des brochettes de bœuf aux feuilles de laurier qu'il faisait griller sur un brasero. Suivant ses indications, ils parcoururent une longue artère bordée d'arbres et de maisons de ville mitoyennes qui rappelaient certains quartiers de Londres. Ils prirent ensuite une rue commerçante qui bourdonnait d'animation. Dans une ambiance cosmopolite, traiteurs grecs, délis végétariens, comptoirs à kebab, kaiten sushi japonais et épiceries coréennes cohabitaient harmonieusement. Un véritable melting pot gastronomique concentré le long de quelques pâtés de maisons. Lorsqu'ils arrivèrent dans Steinway Street, les frontières s'étaient encore déplacées. Cette fois de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord plus exactement. Depuis quelques années, les gens surnomment le quartier Little Egypt ou Little Morocco, précisa Gabriel. De fait, avec un peu d'imagination, on pouvait facilement se croire téléporté en plein monde arabe, dans un souk du Caire ou de Marrakech. Des odeurs délicieuses de miel et de tagine flottaient partout dans la rue. Et dans cette partie du quartier, les bars à chicha se faisaient plus nombreux que les tavernes grecques. Ils passèrent devant une mosquée au ton doré, une boucherie halal, une librairie religieuse. Dans les conversations, l'arabe et l'anglais se mêlaient presque naturellement. « Je pense que c'est ici, » dit Gabriel en arrivant devant une brownstone à la façade claire et aux fenêtres à guillotine qui s'élevait au-dessus de l'échoppe d'un barbier. L'accès à l'immeuble n'était protégé par aucun digicode. Pas d'ascenseur. Ils montèrent les escaliers d'un pas vif, s'arrêtant au troisième étage pour récupérer les clés chez Madame Chaouche, la propriétaire de l'immeuble, que Kenny avait prévenue par téléphone. « Plutôt chicos ici, n'est-ce pas ?» lança Gabriel en pénétrant dans le loft. La garçonnière de Kenny était un vaste duplex au volume largement ouvert, traversé de poutrelles métalliques. Alice s'avança à son tour, contempla les murs en briques, les hauts plafonds, le sol en béton ciré, et tomba en arrêt devant la grande baie vitrée qui offrait un point de vue hypnotisant sur l'Hudson. Elle contempla le fleuve une bonne minute, puis jeta sa gibecière sur une grande table en chêne massif, encadrée d'un banc en métal brossé et de deux fauteuils dépareillés. « Je suis morte !» lâcha-t-elle en se laissant tomber dans l'un des sièges. « Vous savez quoi ? Je vais vous faire couler un bain !» proposa Gabriel. « Pardon ? Non, non, ce n'est pas la peine. Nous avons autre chose à faire que... » Mais sourd à ses protestations, le jazzman avait déjà disparu à l'étage. Alice soupira et resta un long moment immobile, levée dans les coussins. La fatigue refaisait surface soudainement. Il lui fallut plusieurs minutes pour encaisser le contre-coup du stress et des efforts physiques déployés depuis ce réveil hallucinant au milieu du parc. Lorsqu'elle se sentit mieux, elle se leva et fouilla dans les placards de la cuisine à la recherche d'une théière. Elle mit de l'eau à bouillir et, en attendant, déambula dans le salon, regardant machinalement les titres des livres de la bibliothèque, Harry Crowe, Hunter Thompson, Trevanian, les magazines posés sur la table basse, les peintures abstraites et minimalistes accrochées au mur. Lumineux et spacieux, l'endroit baignait dans des tonalités minérales égrenant mille nuances du gris au beige. Un bon compromis entre le style industriel et le tout bois suédois. La proximité du fleuve, la décoration ascétique et dépouillée, la lumière douce, contribuaient à créer l'atmosphère protectrice d'un cocon. Elle chercha des yeux un ordinateur, une box ou un téléphone fixe. Rien. Au centre d'une coupelle, elle repéra une clé de voiture accrochée à un porte-clés orné d'un cheval argenté en pleine course. Une Mustang ? Se demanda-t-elle en s'emparant du trousseau. De retour à la cuisine, elle trouva dans une armoire du genmaicha, un thé vert japonais mélangé à des grains de riz grillés et soufflés. Elle s'en prépara une tasse. Le breuvage était original. Les notes fraîches du thé vert contrastaient avec l'arôme de noisettes et de céréales du riz, mais imbuvable. Elle jeta le contenu de la théière dans l'évier, puis ouvrit la porte en verre de l'armoire à vin, encastrée à côté du frigo. Visiblement, leur hôte était un amateur de bonnes bouteilles. Outre quelques pinots noirs californiens, il collectionnait les grands crus français. Grâce à son père, Alice avait de bonnes connaissances en œnologie. Elle repéra un Château Margaux 2000, un Cheval Blanc 2006, un Mont-Rose 2005. Elle allait ouvrir le Saint-Estèphe lorsqu'elle se ravisa en apercevant un Bourgogne, un Latache 1999 du domaine de la Romanée Conti. Une bouteille hors de prix d'un cru qu'elle n'avait jamais goûté. Elle repoussa tous les motifs rationnels pour ne pas boire le nectar, ouvrit la bouteille et se servit un grand verre qu'elle observa avant de le porter à sa bouche. Belle robe grenat, nez puissant qui partait sur des notes de rose, de baie rouge et de chocolat. Plus que d'une tasse de thé, c'est de ça que j'ai besoin. Elle prit une gorgée de Bourgogne, en apprécia chaque nuance de fruits rouges et d'épices. Le vin lui flatta le palais et lui réchauffa le ventre. Elle vida le verre et s'en resservit un autre dans la foulée. « Si madame veut bien se donner la peine, son bain est prêt !» annonça Gabriel avec emphase du haut de la mezzanine. « Je vous sers un verre ?»«
Quoi ? Vous avez ouvert une bouteille ?»
s'alarma-t-il en descendant à toute allure les marches de l'escalier en colimaçon. Il regarda la bouteille de côte de nuit et explosa de colère.
« Vous êtes vraiment inconsciente, madame sans gêne. Vous savez combien coûte ce vin ?»«
Oh, ça va, Kane, gardez vos leçons de savoir-vivre. »«
Drôle de façon de remercier mon ami de son hospitalité, » insista-t-il.
« Ça va, je vous dis, je le rembourserai, votre foutu vin. »«
Avec quoi ? Votre salaire de flic ?»«
Parfaitement. À propos, vous savez si votre copain possède une voiture ?»
Kenny est propriétaire d'une vieille bagnole, ouais. Je crois qu'il l'a gagnée au poker.
Vous avez une idée de l'endroit où elle se trouve ?
Aucune.
Pris d'une soudaine inspiration, Gabriel traversa le salon pour se pencher à l'une des fenêtres qui donnait sur une cour recouverte de gravier. Une dizaine de voitures étaient garées autour d'un îlot central bétonné. Il plissa les yeux pour distinguer les différents modèles.
C'est peut-être celle-ci,
fit-il en désignant une Shelby. De couleur blanche, rehaussée de deux bandes bleues.
Eh bien, allez vérifier,
demanda-t-elle en lui lançant les clés. Il se rebiffa.
Eh, arrêtez de me donner des ordres, je ne suis pas l'un de vos sous-fifres. Dépêchez-vous, Kane, on a vraiment besoin d'une voiture. Et vous, allez prendre votre bain, ma vieille, vous avez vraiment besoin de vous détendre.
Elle haussa le ton.
Ne vous avisez plus jamais de m'appeler ma.
Elle ne put même pas terminer sa phrase. Kane venait de sortir en claquant la porte. À l'étage, la salle de bain était accolée à une master bedroom, organisée dans l'esprit d'une suite d'hôtel. Alice s'assit sur le lit et ouvrit sa sacoche en toile. Elle s'empara du kit de téléphonie et défit la coque de protection en plastique. L'ensemble contenait un cellulaire, un chargeur, un équipement main libre ainsi qu'un mode d'emploi.
Au fond de la boîte, elle trouva une carte plastifiée avec le numéro de série de l'appareil. Elle connecta le téléphone au courant. Une icône s'afficha sur l'écran, indiquant un crédit de 10 minutes. En appuyant sur le bouton d'appel, elle bascula sur un numéro préenregistré, celui d'une boîte vocale qui lui demanda d'entrer le numéro de série de son appareil. Elle s'exécuta. La voix métallique du répondeur lui demanda ensuite de taper le code de la zone dans laquelle elle comptait utiliser le téléphone. Se souvenant de ce que lui avait dit Gabriel, elle composa le 212, le code de New York. Presque instantanément, on lui assigna un numéro de téléphone qu'elle reçut par SMS. Une fois son appareil activé, elle en termina le paramétrage en entrant le numéro de la carte prépayée, ce qui lui octroya immédiatement 120 minutes de communication. Elle inaugura son crédit en appelant Seymour sur son portable, mais tomba sur son répondeur. « Rappelle-moi sur ce numéro dès que tu le pourras, Seymour. J'ai vraiment besoin d'aide. Fais vite, je t'en prie. » Alice passa ensuite dans la salle de bain séparée de la chambre par une cloison en pavé de verre. La pièce était décorée dans un style rétro qui évoquait les années 1950. Sol à damier noir et blanc, baignoire en fonte sur pied en cuivre, lavabo à l'ancienne, robinetterie vintage en céramique, meubles en bois peint mouluré. Kane avait tenu parole. Sous un épais nuage de mousse l'attendait un bain fumant parfumé à la lavande. Quel drôle de mec! Alice se déshabilla devant un grand miroir inclinable en fer forgé et se glissa dans l'eau. La chaleur augmenta son flux sanguin et réveilla tous les pores de sa peau. Ses muscles se relâchèrent. Les élancements douloureux dans ses articulations s'atténuèrent. La jeune femme respirait à plein poumon. Elle avait l'impression agréable d'être emportée par une onde brûlante et bienfaitrice, et pendant quelques secondes, s'abandonna totalement à la langueur voluptueuse du bain. Puis, elle bloqua sa respiration et plongea la tête sous l'eau. L'alcool qui passait dans son sang et la température du bain la faisaient flotter entre somnolence et engourdissement. Des pensées contradictoires traversaient son esprit. Sa perte de mémoire la rendait fébrile. Une fois de plus, Alice essaya de reconstituer sa soirée de la veille. Toujours ce même trou noir qui l'empêchait d'accéder à ses souvenirs. Au départ, les pièces du puzzle se mettaient en place facilement. Les bars, les cocktails, les copines, le parking de l'avenue Franklin Roosevelt, puis son trajet jusqu'à sa voiture. L'éclairage artificiel vert bleuâtre du souterrain. Elle se sent vaseuse, titube. Elle se voit distinctement ouvrir la portière de la petite Audi et s'installer au volant. Il y a quelqu'un à côté d'elle. Elle s'en souvient à présent. Un visage qui émerge de l'ombre par surprise. Un homme. Elle tente de discerner ses traits, mais ils disparaissent sous un brouillard de nacre. Soudain, le flot de souvenirs remonte plus loin dans le temps, porté par le courant d'un fleuve qui prend sa source au cœur de la douleur.